Suivez le guide avec Elisabeth Boivin, guide interprète nationale du tourisme. Laissez-vous porter par sa fougue et sa passion à travers les chemins du patrimoine. Elisabeth vous emmènera, sans avoir l'air d'y toucher, dans la réalité et dans le rêve. Et tout ceci est possible grâce à notre ami fidèle Laurent à la technique. Il fait beau, le temps est rempli de promesses. Allons cueillir de grandes brassées printanières en nous enfonçant dans les bois. Explorons les arbres, les buissons, les herbes. Respirons ces odeurs mélangées et tenaces qui nous ramènent à l'essentiel. Laissons-nous guider par Elisabeth et son invité éclairé qui nous ouvriront les portes de leur savoir et de leur passion. Cet invité du jour, Yves Montagnier, aime la nature et la décline pour nous sous bien des formes. Les jardins lui ont dévoilé et confié leurs secrets. Quelques privilégiés ont pu parcourir le jardin de Yves Montagnier et ont très rapidement compris la symbiose existante entre lui et la nature. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Titane.
Bonjour Yves.
Bonjour.
Et merci de nous ouvrir un pan de votre cœur pour éclairer notre regard sur la nature, les jardins, ceux du passé, ceux de ce 21e siècle qui gardent toujours un incroyable pouvoir de séduction.
Merci Titane. Effectivement, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons aujourd'hui Yves Montagnier, qui, entre autres passions, prend grand soin de son jardin, composé d'un magnifique parc et d'un très beau potager qui se découvre petit à petit au bout d'un chemin presque, je dirais, initiatique. Une toute première question, Yves. Avez-vous toujours aimé jardiner ou cela vous est-il venu sur le tard ?
Je me souviens, étant petit, d'aider ma mère qui taillait ses rosiers, mais ça n'a jamais été une corvée. Ça a toujours été naturel. Et quelquefois, de moi-même, j'allais au jardin si je voyais quelque chose qui était en désordre pour remettre ceci à ma convenance. Mais ça n'a jamais été une corvée, un travail fastidieux.
Donc voilà, c'était le plaisir d'être dans le jardin et avec votre mère.
Oui, et puis c'est toujours le plaisir de jardiner. On oublie les soucis, on voit la nature qui progresse. Il y a tellement de choses à découvrir petit à petit. Je pense qu'on devrait plus souvent regarder le sol parce qu'il y a tellement de belles choses et même ne serait-ce que des choses très simples. Actuellement, les rhubarbes sont en fleurs. Il y a une multitude d'insectes très différents et c'est de les voir butiner, s'activer, tourner là autour, c'est reposant.
Voilà, la vie au ras du sol, baisser les yeux. Mais s'occuper d'un jardin, est-ce que ça s'improvise vraiment? Ou alors là, il y a le regard, il y a l'apprentissage à côté d'une mère, par exemple, mais est-ce que ça s'improvise ou est-ce qu'on peut, par exemple, s'inspirer des almanachs pour planter au bon moment ou selon les règles de l'art? Est-ce qu'on peut se référer encore à ces almanachs qui ont un peu dirigé ou le jardinage d'autrefois, disons-nous?
Oui, il y a une mode actuellement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de revues. Personnellement, j'en achète rarement parce que elles sont trop fréquentes et j'ai pas le temps de tout lire. Alors oui. Finalement, c'est par le bouche à oreille. J'ai eu la chance, on a eu la chance d'avoir une nourrice dont le mari était jardinier et il m'a beaucoup appris. Puis le fait de faire des expériences soi-même. Finalement, on retrouve, c'est vrai, des combines, des trucs,
oui.
Comme les différents purins que l'on trouve, que l'on peut faire avec les végétaux. Et tout ça, mis bout à bout, on arrive avec une certaine expérience à favoriser un plaisir.
Donc, voilà, confectionner son propre purin plutôt que d'aller acheter quelque chose de tout fait, tout conditionné dans une jardinerie ou autre. Il y a aussi du plaisir à se rendre autonome par rapport à tout ce qu'on nous dit par rapport au jardin aujourd'hui.
C'est un peu comme la cuisine.
D'accord.
On préfère faire soi-même un plat, l'apprécier, même s'il y a des défauts qu'on va corriger par la suite. Le jardin, c'est pareil un petit peu aussi. Moi, j'aime bien essayer de faire mes concoctions, purin d'ortie, purin de prêle, purin de rhubarbe. Et ça évite d'acheter des produits qui sont très nocifs, d'autant plus que maintenant, c'est interdit. Et en plus, si vous voulez, c'est quand même assez efficace. Mmh. À condition, bien entendu, de les mettre régulièrement. Si vous faites ça une fois par an, ça ne sert à rien du tout. Mmh. Mais si vous faites ceci en état préventif contre les insectes, il y a même des produits qui guérissent, enfin des produits, des concoctions qui arrivent à guérir, si vous voulez, qui sont fongicides. C'est vraiment quelque chose de... Et c'est vrai, vous utilisez du savon noir, vous utilisez d'huile de colza, vous utilisez du bicarbonate de soude, mélangez ceci dans certaines proportions avec les différents purins. C'est très simple, il suffit de filtrer, d'attendre 3 semaines, et puis vous vaporisez ça, vous arrosez même vos tomates, vos légumes, vos arbres fruitiers.
Oui, voilà, il y a une manière un peu autonome, c'est le jardin par le jardin. Lui-même procure tout pour s'entretenir en quelque
exactement,
sorte.
Exactement.
D'accord. Et croyez-vous au dicton du style « Il n'est point d'avril si beau qu'il n'est de neige en son sabot » Est-ce que ce genre de dicton relève encore d'un bon sens paysan toujours valable ou d'une certaine poésie du jardinier?
Je pense qu'il faut respecter ce que disent les anciens. Il y a beaucoup de réalité et l'expérience se fait au fil des années. Donc la neige est très bonne puisqu'il y a de la potasse dedans. Le gel est très bon aussi puisque ça tue, si vous voulez, la vermine, mm-hmm. en particulier sur les arbres fruitiers. Et on remarque que depuis quelques années, il y a peu de gel, le temps a changé. Et on a plus des difficultés pour obtenir sur les arbres fruitiers des fruits. Il y a beaucoup de maladies, de petits vers qui se mettent... et qui ne sont pas tués par le mauvais temps, par le gel, par la froidure.
Oui, et c'est effectivement ce qui fait parfois souvent la une des journaux récemment avec le... Alors pour le coup, là, il y a eu du gel, mais peut-être tardif sur les vignes du sud de la France. Et il y a aussi des insectes qui ont été importés en quelque sorte, et... A-t-on vraiment des possibilités de lutter contre ces insectes, des prédateurs qui arrivent surtout d'Asie?
Vous parlez de la pirate du buis, vous parlez de la mouche qui...
ou l'insecte qui attaque les châtaigniers.
Les châtaigniers, oui, qui produit des taches de rouille.
Voilà.
Et même la coccinelle, celle qui vient... qui vient d'ailleurs et qui mange la nôtre.
Il y a différents. C'est vrai parce que on importe sans le vouloir des insectes par les avions, par les convois, mm-hmm. tout ça. Et c'est très difficile. Mais l'INRA a fait pas mal de recherches actuellement là-dessus. Hein. Je sais que les mésanges raffolent de la chenille qui se trouve sur les buis.
Ah oui. Voilà, j'ai entendu parler de ça
et
aussi.
Donc, il y a certains endroits où on a essayé de mettre des nichoirs pour les mésanges. Mais ça sera peut-être insuffisant. Vous êtes dans la région de Crémieux, c'est tout gris. C'est tout,
oui. Et maintenant, dévasté, le plateau de Crémieux est dévasté. Il n'y a plus un buis. Oui.
Il faut faire attention au feu qui risque en été de se produire.
Oui, c'est ce dont on se rend compte.
Chez moi, j'avais des très gros buis. Ils font 5-6 mètres de haut. Et je les ai coupés à 2 ou 3 mètres, à moitié, justement pour pouvoir les traiter plus facilement. Et puis parce que des buis très, très gros, c'est quelquefois ça se casse avec la neige, ainsi de suite.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est une calamité. Hein.
Oui, on s'aperçoit effectivement quand on fait des promenades ou dans la campagne et qu'on passe soit près d'une propriété qui a de très grands arbres qui ont été rapportés au 19e siècle de voyages lointains et quand on voit les chenilles processionnelles qui sont au sommet, qu'on n'arrive pas à traiter justement aussi, ça pose des questions. Mais bon, c'est la vie de la nature. Alors, votre maison, Yves, comprend un parc et un potager. Et le soin apporté à l'un et à l'autre, est-il réparti sur l'année ou est-ce qu'ils s'entretiennent simultanément?
Par ma profession, je suis quelqu'un de très organisé. J'ai toujours planifié.
Oui.
Et en conséquence, il faut le faire suivant la saison. Suivant la saison, les tailles, lorsque la terre, la sève est bloquée. Mm-hmm. Au printemps, après les floraisons des premiers arbustes, il faut tailler un petit peu, tout ça, pour que les nouvelles pousses puissent servir pour l'année suivante. Non, ça se fait régulièrement au fil des mois.
Soit l'un, soit l'autre.
Soit l'un, soit l'autre, c'est un ensemble.
D'accord.
Vous parlez de parc, enfin, compte, c'est une propriété que j'avais achetée, que personne ne voulait, qui était abandonnée depuis 25 ans. Et il a fallu. On n'a même pas pu aller jusqu'au bout du terrain, tellement c'était encombré par une végétation sauvage. Et donc on a fait ça petit à petit, mais il n'y a pas d'arbres exceptionnels. Ce sont des arbres que l'on voit dans la région lyonnaise. Il n'y a pas d'arbres rares. Il y a des très beaux arbres, des cèdres, des épicéas, des conifères différentes. Mais si vous voulez, ce n'est pas quelque chose de recherché par la variété des espèces végétales. Mais moi, ça me suffit. Ça me suffit. Donc, je laisse un peu côté sauvage par moment. D'un autre côté, j'aime bien tailler un laurier pour faire de l'art aux pierres, tout ça. Mélanger l'un et l'autre. L'œil, si vous voulez, ça fait quelque chose d'enrichissant, pas monotone. Voilà, c'est tout.
Oui, alors c'est la manière dont vous parlez de ce parc, effectivement, ça nous ramène au fait que vous êtes un passionné d'art, que votre épouse est une artiste peintre et que vous avez un regard aussi sur ce jardin qui n'est pas uniquement un regard utilitaire, mais qui est un regard d'artiste aussi. Est-ce qu'on peut dire ça?
Disons que quand on a aménagé ce jardin au début, j'ai passé beaucoup de temps à composer les massifs. C'est-à-dire... J'ai étudié, j'ai pris pas mal de bouquins à ce moment-là, suivant la hauteur des espèces, suivant la couleur et suivant la date de floraison. Et en particulier, j'ai choisi que des plantes vivaces pour éviter du travail.
C'est très bien.
Et donc, si vous voulez, au fil du temps, c'est évident que ça envahit, les uns dominent sur les autres, donc il faut faire des corrections, il faut arriver à... arranger tout ceci pour faire un équilibre, mais c'est passionnant, hein. C'est un travail fou. Et je me souviens que ma mère me disait « Pourquoi tu ne fais pas architecte paysagiste ?» Et elle m'avait présenté un monsieur qui s'appelle Lévesque. J'avais 8 ans, je rappelle, et qui était de Grenoble. Et c'est vrai que c'est une passion, c'est devenu une passion, et je crois, je l'ai fait chez certains clients, je leur ai fait leur jardin quelquefois, justement pour... leur montrer comment on pouvait mettre en valeur une architecture par du végétal.
Vous faisiez déjà, en plus, de la permaculture avant l'heure.
Si
parce que
dire.
C'est un peu ça, maintenant, la permaculture.
Oui.
C'est le travail, mais pas de se faire mal au dos, ni s'ennuyer, mais laisser la nature, mais quand même la maintenir.
Il faut
faites.
La discipliner, oui.
La discipliner,
oui. Voilà. La stimuler et la discipliner.
FM 97.1. Suivez le guide avec Elisabeth et son invité Yves Montagnier. Nous venons d'entendre Catalani par Krasimira Stoyanova. Je n'ai pas choisi un nom facile à prononcer. C'est une bulgare. La Wali Eben No Andro Lontana. Elisabeth, nous continuons notre cheminement.
Oui, nous continuons notre cheminement parce que c'est tout à fait passionnant. Et nous étions en fait sur le parc de cette maison. Effectivement, c'était une maison bourgeoise du 19e siècle avec des arbres, je crois, qu'on appelait des arbres de statut, S-T-A-T-U-T, qui montraient aussi le rang social des personnes qui étaient propriétaires de cette maison. Et il avait un style, ce parc, parce que effectivement il y avait des maçonneries de faux bois, comme on a trouvé dans des jardins de ville en définitive, et que vous avez vraiment voulu conserver.
Oui, comme je le disais, on ne pouvait pas voir le terrain tellement il était envahi, mais par contre, à proximité de la maison, il y avait un banc, une table, il y avait un pont. Tout ceci fait par des maçons d'autrefois. C'était un travail remarquable pour imiter le bois. Et je ne sais pas comment ils faisaient, parce que c'est vraiment quelque chose de très fort. Donc il y avait ceci, et on l'a conservé. Et c'est à partir de ceci. J'ai trouvé aussi dans les combles des plaques de verre, des photographiques, où on voyait quelques statues. Mais on n'a pas vu des traces de statues.
D'accord.
Donc il y avait, si vous voulez... des gens qui habitaient dans cette maison, qui étaient sans être trop aisés, c'était pas réputé, c'était une famille de bourgeois, mais c'était quelque chose de très correct. Mais il a fallu tout remettre ça en état. Pas les statues, puisqu'il n'y en avait plus, mais on a conservé ce banc. Il s'esquinte un petit peu et on ne trouve personne pour refaire ça.
Ah oui.
Parce qu'il y a une armature en fer dedans, quelquefois il y a du grillage, et le grillage s'oxyde. Avec le gel, ça fait plus ou moins péter le ciment, tout ça, et c'est dommage. Mais c'est vrai que c'est une certaine âme. Ce côté romantique nous a beaucoup plu avec mon épouse.
Oui, vous avez gardé cette âme de jardin, je trouve, qu'on trouvait dans des jardins publics d'autrefois, peut-être qu'on trouve moins facilement dans des jardins privés, mais c'est vraiment tout à fait remarquable. Et justement, votre épouse, artiste peintre, Brigitte Martinet, prend souvent la nature de votre jardin comme source d'inspiration. Et est-ce que vous en avez tenu compte ou vous en tenez compte dans le choix peut-être éventuel de l'arrangement de votre jardin en choisissant tel type de fleurs parce qu'elles vont avoir telle couleur ou telle teinte de feuillage ou je ne sais pas quand on choisit un arbre?
Je lui demande, je lui dis ce que je veux faire, je lui demande ce qu'elle en pense ou ça. C'est vrai qu'elle s'est beaucoup inspirée du jardin, des coins qui sont au bord de l'eau, des choses très, très romantiques également avec les nénuphars, avec les ombres sur l'eau, avec la brise qui provoque des scintillements sur l'eau. Et il y a quelques années, elle avait fait une exposition dans le jardin.
Je m'en souviens très bien.
Comprenant, elle exposait cette toile.
In situ, en fonction.
À l'intérieur de... Et les gens, si vous voyez son interprétation de la nature, vous voyez les couleurs, mais les couleurs, elles changent aussi avec le temps, c'est évident, parce que suivant le soleil ou les nuages, ainsi de suite. Et puis, ça allait jusqu'au potager, où il y avait des natures mortes, il y avait différentes choses. Mais c'est vrai qu'actuellement... dans l'art de pierre et avec les bambous, on peut faire des choses formidables, mais il faut du temps. Je sais que moi j'aime bien les. J'avais des projets pour faire des agencements, pour accentuer la perspective avec des bambous. Et ça peut être quelque chose de très intéressant en les colorant. J'ai fait des essais, tout ça. Mais mon rêve, ça serait de faire une exposition de sculpture. Faire venir des sculpteurs et les laisser interpréter, leur laisser exposer en fonction du cadre, des ombres, des lumières, des recoins, et faire une découverte. Ça manque. Je crois que un jardin doit être vivant et
animé.
Et ça, le monde de l'art peut très très bien
se marier
là-dedans.
Oui, tout à fait.
Et pour vous, un jardin ne doit pas être vu d'un seul coup d'œil. C'est-à-dire que on se promène dans le jardin et il y a des coins, des recoins.
Oui.
On se promène on découvre tout le temps.
Voilà, il faut découvrir.
Oui,
il faut découvrir un chemin ombragé, très étroit, avec le bruit de l'eau, des percées de soleil par moment. C'est super sympa. Et puis, différentes feuilles qui viennent de plus ou moins retomber, la couleur du feuillage. Il y a quelque chose de vraiment très enrichissant à l'œil.
Oui, et c'est un peu dans ce sens où je disais que le potager était situé au bout d'un chemin un peu initiatique, puisqu'il est modestement placé au fond du...
Il se découvre.
Et c'est vraiment quelque chose de très poétique, finalement. Et pour revenir à cette exposition qu'avait fait Brigitte Martinet, je me souviens en particulier d'une toile représentant des roses trémières, au milieu de roses trémières, et une autre représentant une nature morte de coin, juste sous le cognassier. Donc il y a une sorte de... de conversation entre le tableau et son cadre, pas le cadre, il dépasse le cadre et il est dans la nature, c'est vraiment très intéressant.
Exactement, le tableau, la nature est la suite du tableau. Et moi j'aime bien, par exemple, quand mes amis viennent me voir, les emmener par un chemin et revenir par un autre, pour voir le jardin d'une autre façon. Et
oui,
c'est quelque chose. Et on a l'impression d'avoir fait un grand trajet, mais en fin de compte, il n'y a que 300 ou 400 mètres.
Oui, voilà. C'était une belle promenade poétique. Et je voudrais terminer par, dans le cadre d'un précédent mandat électoral, vous avez participé à la mise en place de jardins familiaux, je crois, ou jardins partagés.
Alors, il y a eu un projet à Bourgoin, à Champfleury, en 2012. Un jardin qui était partagé, mais je crois... Enfin, le projet, c'était... Je ne sais pas si c'est réalisé, parce que après, ça changeait de municipalité, et je ne sais pas si les gens étaient toujours intéressés pour le poursuivre. C'était des gens qui habitaient dans des immeubles.
Mmh.
Et c'est vrai que...
Parce qu'il y a quelque chose au rivet de ce type-là.
Alors, au Rivet, c'est différent.
Ah, c'est différent.
C'est une structure des personnes qui ont un handicap, qui cultivent ce jardin.
D'accord.
Et c'est vrai, un jardin, la maison de paille, je sais pas ce que ça s'appelle. Et c'est vrai que pour ces personnes-là, ça apporte beaucoup d'échanges.
Bien sûr.
Et de calme. Et c'est une médecine, si vous voulez, qui est très importante pour eux. Mais à Champfleury, c'était des gens qui habitaient dans les immeubles, des mamans qui voulaient avoir un espace à partager ensemble. L'idée est très bonne, d'autant plus qu'il faut faire attention aux légumes. Il ne faut pas qu'il y en ait qui ramassent tout d'un seul coup.
Non. C'est tout un apprentissage aussi.
Voilà, il y a une certaine discipline.
Oui,
il y a une certaine
voilà.
discipline et une certaine sagesse qu'il faut faire comprendre aux gens.
Mm-hmm.
Et c'est à cette époque-là, justement, que... a commencé pour la ville de Bourgoin la suppression des produits chimiques.
D'accord.
Donc avec le binage, avec le désherbage à la binette, plutôt que d'employer tous ces produits qui polluent, et dont maintenant ils sont
la plupart interdits. Sont interdits, oui. Enfin, en France, parfois, il suffit de malheureusement de passer une frontière et de les trouver disponibles. Donc, merci d'avoir partagé ces impressions de jardinier qui sont autant de clés de lecture et de compréhension pour visiter cet été des parcs, des jardins remarquables, publics, privés ou jardins partagés. Merci encore, Yves.
Ben, merci à vous. C'est une passion que j'exprime naturellement. Voilà.
Vite comme ça, est-ce que vous avez, dans Bourgoin-Jallieu ou les environs, un jardin à proposer aux personnes ou un lieu que l'on peut visiter tout simplement ou que vous aimez particulièrement ?
Le jardin de ville, Bourgoin est quand même une ville qui, depuis pas mal d'années, a beaucoup investi dans les espaces verts. Et il y a des équipes actuellement qui sont formidables, des gens qui apportent beaucoup de soins. Le jardin de ville est très bien, bien qu'il ait un petit peu perdu de sa personnalité autour du bassin, à cause des buis qui ont été enlevés tout le long des années, tout ça. Il est moins un jardin à la française. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de trouver des végétaux qui résistent. Oui, n'hésitez pas à parcourir les jardins, le parc des Lilates ou le jardin de ville de Bourgoin et les différents espaces, c'est très joli.
Merci beaucoup Yves, merci Elisabeth et puis merci Laurent. Bonne continuation et...
Bel été.
Bel été, merci.